la période des fêtes influence notre cerveau? David, il y a des études sérieuses qui ont enquêté sur la question. Est-ce qu'il y aurait vraiment un cerveau de Noël?
Évelyne, j'ai fait une erreur.
Ah bon?
Ma manière de préparer les chroniques, c'est pas mal toujours la même. Moi, je me tiens au courant de ce qui se passe du point de vue scientifique dans mon domaine. Je mets en banque des sujets qui m'intéressent. Et lorsque vient le temps de faire une chronique, ben, j'ai déjà plusieurs sujets en réserve que je peux ressortir et bâtir ma chronique autour de ça. Et là, je me suis dit, ben, c'est la période des fêtes, alors je vais essayer d'être un peu plus ludique, un peu plus léger, faire comme certains de mes collègues l'ont fait dans les semaines précédentes, faire des chroniques du temps des fêtes. Et j'ai simplement tapé le mot « Noël et cerveau » pour qu'on me restitue quelques papiers scientifiques avec le terme « le cerveau de Noël ». Mal m'en a pris, Evelyne.
Ah bon?
J'ai construit ma chronique sur le cerveau de Noël. Alors, la chronique, comme vous allez le voir, débute de manière très ludique, mais ce n'est qu'un leurre, parce que c'est un point de départ et ça va devenir une chronique sur une critique des excès de la science.
OK.
Donc, j'ai essentiellement sorti trois articles sur ce sujet-là. Je les ai transmis à l'équipe là, de recherchistes, donc ça serait bien si on pouvait les mettre sur le site pour que les auditeurs, vous puissiez les consulter. C'est des articles qui se lisent honnêtement relativement bien. Puis j'utilise aussi une section du chapitre 9 de mon dernier livre, « Le cerveau, l'univers dans votre tête » pour cette chronique-là. Donc, je débute avec le premier papier en anglais, « Evidence of a Christmas Spirit Network in the Brain Functional MRI Study », qui a été publié en 2015 dans le British Medical Journal, qui est quand même pas un journal léger. C'est un journal assez sérieux. Et c'est une recherche danoise qui s'est intéressée, en fait, à l'esprit de Noël maintenant. Qu'est-ce que l'esprit de Noël? Bien, là, ce qu'on a cherché à faire, c'est prendre 20 individus, 10 qui fêtaient activement Noël et 10 pour qui Noël n'avait que peu de répercussions, peu d'intérêt, peu de symbolisme. Et là, on leur a fait passer un examen qu'on appelle une résonance magnétique fonctionnelle. Et là, il faut que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, cette histoire-là. On met l'individu dans la résonance magnétique et on lui demande de faire une action précise. On utilise souvent cet instrument-là pour planifier des chirurgies. Donc, on va demander, par exemple, à quelqu'un de bouger son pouce droit ou sa main droite. Et l'instrument va nous permettre, de manière indirecte, de répertorier des groupes de neurones qui sont activés lors de cette tâche. Donc, ça va bien. Hein? On peut évaluer ainsi des tâches motrices, des tâches sensitives. On peut évaluer des tâches visuelles.
Est-ce qu'on peut évaluer toutes les tâches, même des pensées, par exemple?
Bien, là est le problème, en fait, avec ce type de papier-là, c'est qu'on se permet d'aller un petit peu trop loin. Puis c'est vers ça que je vais aller, en fait, en vous parlant de cet article-là. Donc, pour des tâches très, très simples, l'instrument est très utile. Mais là, il y a un certain débordement idéologique où on essaie de l'utiliser pour des choses un peu plus complexes, comme vous le mentionniez, des pensées abstraites. Alors, l'esprit de Noël. Hein? Donc, on a pris nos fameux deux groupes de patients, certains qui révéraient Noël, d'autres pour qui ça n'avait aucun intérêt. On les a mis dans la résonance magnétique et on leur a montré des images, essentiellement. Donc, des images qui avaient attrait à Noël. Donc, on prend un petit village, par exemple, qui est décoré pour la période des fêtes. Et le même type d'image, mais neutre cette fois-ci. Donc, le même petit village, mais dans des circonstances normales. Même chose pour un repas, par exemple. Un repas de Noël avec les décorations de Noël autour de la table. Le même repas, copieux, mais sans les dites décorations. Et là, on a enregistré ce qui se passait dans le cerveau de nos deux groupes de patients pour finalement conclure que les gens qui vénéraient Noël, lorsqu'ils étaient exposés aux images qui référençaient Noël, avaient plus d'activation dans leur cerveau que l'autre groupe de patients. En toute honnêteté, Evelyne, si je vous avais demandé de prédire les résultats de l'étude, je suis pas mal sûr qu'on aurait été capable de prédire ce type de résultats-là.
Ouais.
Mais là où ça devient un peu confondant, je vous dirais, c'est lorsqu'on regarde les régions qui sont activées dans le cerveau. Donc, il y a le cortex moteur, le cortex sensoriel, le cortex prémoteur, le lobule pariétal inférieur et supérieur, et une région dans une région profonde dans le lobe pariétal qu'on appelle le précuneus. Donc, il y a énormément de régions qui sont activées dans le cerveau lorsqu'on expose des patients qui aiment Noël à des images de Noël. Et nos auteurs concluent qu'il existe donc un réseau de l'esprit de Noël dans le cerveau humain comprenant plusieurs zones corticales.
Bon.
Est-ce que je peux maintenant faire ma petite montée de lait?
Oui, bien sûr, allez-y.
C'est là que je suis rendu. Moi, Evelyne, je ne sais pas pour vous, mais je suis un amateur fini de Star Wars. Je suis exposé à Star Wars depuis que je suis tout jeune. Si vous me montrez dans une résonance magnétique fonctionnelle des images de Darth Vader, mon cerveau va s'activer de manière de manière importante, alors que quelqu'un qui en a rien à foutre de Star Wars n'aura pas ce type d'activation. Je ne crois pas qu'il y ait dans ma tête un réseau neuronal de Star Wars. Donc, je trouve que ce type d'étude-là est un peu lâche. Et je vais vous expliquer un peu. Je suis obligé de vous parler des troubles méthodologiques reliés à ce type d'étude-là. C'est un peu vers ça que je vais aller. Donc, lorsque ce papier-là a été soumis au British Medical Journal, probablement que les auteurs ont vu leurs résultats déjà partiellement critiqués, car ils ont fait une longue discussion suite au papier qui, en fait, regarde un peu les aspects un peu plus discutables de leur étude. Les auteurs affirment que certains scientifiques soutiendraient que des études telles que la leur, mettent trop d'accent sur l'importance d'activités cérébrales localisées. Puis ces tentatives-là de localiser des émotions complexes dans le cerveau, ça contribue peu à la compréhension des émotions. Mmh. Et en fait, non seulement ça, mais là, c'est important ensemble qu'on fasse une distinction fondamentale entre la relation de causalité et une association sans relation de causalité.
Okay.
Puis ça va être le message à retenir de la chronique, parce qu'en science, on se laisse trop souvent prendre, comme c'est bien souvent le cas avec ce type d'études-là. Donc, j'ai un exemple fascinant d'absurdité que je cite dans mon livre, chapitre 9 sur la conscience. Et je vous donne un exemple. Donc, c'est la correspondance absolument identique entre la vente de crème glacée aux États-Unis et les attaques de requins enregistrées. Donc, croyez-le ou non, lorsqu'on regarde les deux courbes, soit les courbes de vente de crème glacée et les courbes d'attaque de requins aux États-Unis, il y a une superposition absolument identique de ces courbes-là. Et c'est à dire que les jours où les gens consomment beaucoup de crème glacée, ben il y a plus d'attaques de requins.
Oh, bon.
Est-ce que pour autant il y a une relation de causalité entre les deux? Est-ce que le fait de manger plus de crème glacée augmente les attaques de requins? Bien sûr que non. Et ça donne simplement que les jours très 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 chauds, les gens consomment plus de crème glacée. Il y a plus de baigneurs dans les eaux, ce qui donne plus de chances statistiques d'être attaqué par un requin. Donc voici une belle association sans causalité. Et les études de résonance magnétique fonctionnelle peuvent souvent, en fait, rapporter ce type d'association-là, sans qu'il y ait nécessairement de causalité. De fait, lorsqu'on regarde les neurones qui se sont allumés dans l'étude de nos auteurs, bien, je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup de régions du cerveau qui sont allumées, et ce sont des régions qui sont utilisées dans bien d'autres situations. Le deuxième message important de la clinique, il n'y a pas de centre spécifique dans le cerveau pour des émotions. Il n'y a pas de centre hédoniste dans le cerveau. Il n'y a pas de centre du plaisir. Il n'y a pas de centre de la tristesse. Bien, on a identifié des nœuds qui s'activent souvent dans certaines circonstances. Entre autres, on parle d'un centre hédoniste, puis là, on est rendu à trois, puis bientôt cinq centres hédonistes. Le point étant que le cerveau fonctionne de manière globale. Ce n'est pas un organe qui est morcelé en différents nœuds. C'est un organe qui fonctionne de manière globale. Puis lorsqu'on regarde les activités complexes de cet ordre, par exemple, avoir de la joie dans la période des fêtes, bien, il y a plusieurs régions du cerveau qui sont activées, probablement de manière différentielle entre vous et moi, mais différentes régions qui sont activées qui correspondent à des émotions.
Oui, on va parler de la nostalgie peu plus tard. Mais forcément, quand on pense aux fêtes, si on a de bons souvenirs, ils vont émerger, puis ça va allumer certaines parties du cerveau, je présume.
Tout à fait. Puis là, je suis obligé de vous citer un autre papier qui est absolument extraordinaire d'absurdité. Alors, je vous lis le titre. Neural correlates of interspecies perspective taking in the postmodern Atlantic salmon, an argument for proper multiple comparison correction.
Est-ce qu'on peut traduire? Parce que là, il y a beaucoup de mots. Là.
En fait, de manière simplifiée, on a pris un saumon atlantique qu'on a mis, j'ai oublié de dire le plus important, un saumon atlantique mort qu'on a mis dans une résonance magnétique et on lui a fait entendre des extraits vocaux pour identifier dans ce saumon atlantique mort un centre du langage humain.
Mais voyons.
Et les auteurs ont utilisé cette démonstration pour montrer toute l'absurdité des résultats qu'on pouvait obtenir parfois avec les études de résonance magnétique fonctionnelle. Nous, en science, on n'est pas très bon pour reconnaître nos erreurs et pour présenter ces résultats négatifs. Alors, les auteurs ont cherché à publier cette étude-là dans de multiples journaux scientifiques sérieux qui ont tous rejeté le papier. Finalement, le papier est passé dans un journal très, très, très marginal qui s'appelle le journal « The Journal of Serendipitous and Unexpected Results ». Donc, un journal très peu coté. Mais cette histoire-là a fait le tour du monde et a envahi la sphère des neurosciences pour montrer le fait que parfois, les études de résonance magnétique fonctionnelle, on pouvait leur faire dire à peu près n'importe quoi.
Donc, ils voulaient prouver un point, tout simplement. Donc, ils ont fait passer donc, cette imagerie par résonance magnétique à un cadavre de poisson.
Ouais.
Qu'est-ce qui en est ressorti de cette étude?
Ben, c'est ça. En fait, une preuve par l'absurde comme quoi le cadavre de poisson comprenait le langage humain. Mm. Et tout ça pour dire que on incite les neuroscientifiques et on incite les auditeurs à toujours être prudents lorsqu'on présente des résultats. C'est Einstein qui disait de toujours tout remettre en question. Bien, ça demeure drôlement vrai dans un contexte comme celui qui nous préoccupe actuellement, le contexte où on essaie de décortiquer des émotions ou des fonctions cognitives complexes. Je prétendrais personnellement qu'on n'apprend pas les outils à l'heure actuelle pour faire ça. Je poursuis en fait, parce que dans le papier danois, on avait identifié une région, je voulais mentionner, qu'on appelait le précuneus, qui est dans le lobe pariétal du cerveau humain. Et il citait une étude japonaise, aussi parue en 2015, cette fois-ci dans une revue très, très haut cotée, le Nature Communication. Et dans cette étude-là, on avait évalué le cerveau de 50 Japonais pour identifier un lien entre le bonheur et le précuneus, cette fameuse partie du cerveau. À savoir que lorsqu'on mettait les gens dans la résonance magnétique fonctionnelle, lorsqu'on leur montrait des images qui, pour eux, correspondaient à des situations de bonheur, le tout étant individualisé, on avait une hyperactivation de cette région-là du cerveau. Mais encore ici, il y a un biais absolument incroyable dans cette étude-là, parce que le précuneus, c'est une région qui a été dans les plus étudiées dans les 20 dernières années, et on s'est rendu compte que cette région-là était une région un peu autobiographique, c'est-à-dire qu'elle va s'activer chaque fois qu'on réfléchit à nous-mêmes.
Ah.
Donc, lorsqu'on ressent du bonheur, oui, mais aussi lorsqu'on ressent de la tristesse, de la honte, de la colère, etc. Donc, voyez-vous que si on avait recherché la tristesse, c'est ce qu'on aurait trouvé dans le précuneus. Et on aurait dit, ben voilà, le précuneus est le centre de la tristesse dans le cerveau.
D'accord. Donc, c'est un peu le siège de la conscience de soi, finalement. Tous les récits sur soi-même passent par le précuneus.
Bien, en fait, c'est ça. Il y a dans le cerveau un réseau qu'on appelle le réseau de mode de défaut, qui est un réseau qui est activé lorsqu'on est en mode autobiographique. Et le nœud central de ce réseau-là, ce n'est qu'un des nœuds parmi des dizaines identifiées, mais le nœud central serait le précuneus. Donc, tout ça pour vous dire que je ne remets pas en doute l'esprit de Noël, loin de moi cette idée, mais je remets en doute le substrat neuronal de l'esprit de Noël.
D'accord.
Et je pense que de chercher ce type de correspondance-là entre des groupes de neurones et des émotions complexes qui sont par ailleurs extrêmement objectives, je devrais dire extrêmement subjective, le contraire d'objectif, c'est courir après une chimère.
Je comprends. Donc, on n'a pas un réseau dans le cerveau qui s'allume comme des lumières de Noël quand on regarde le cerveau.
J'aurais vraiment aimé ça, vous dire que oui, conclure que oui, mais je pense que cette étude-là, c'est un peu du gros n'importe quoi. En fait, je veux juste mentionner que les auteurs concluent le papier en disant que certains scientifiques pourraient être, j'ai pas le terme exact, mais pourraient être...
Influencés, peut-être?
Non. Certains scientifiques pourraient regarder leurs résultats avec beaucoup de circonspection, mais qu'eux, compte tenu de l'esprit de Noël, rejetaient ces visions négatives-là et croyaient que leurs résultats étaient justifiés.
C'est ça, le vrai esprit de Noël, finalement.
Ben, exactement. Puis ça n'a pas sa place, à mon avis, dans une revue scientifique sérieuse.
Voilà. C'est un beau rappel. Merci, Dr. David Fortin. Je rappelle que vous êtes neurochirurgien et professeur au département de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke.